VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Trois policiers kenyans ont été tués ce mercredi par l'explosion d'un engin piégé au passage de leur véhicule dans l'est du Kenya, près de la frontière avec la Somalie. A-t-on appris de sources policières, les policiers se rendaient vers la grande ville régionale de Garissa quand l'explosion a eu lieu tout près du poste frontière de Liboy. L'incident n'a pas été immédiatement revendiqué, mais l'est du Kenya est une région agitée où les islamistes somaliens, Shabab, affiliés à Al-Qaïda, ont l'habitude de mener des attaques. En RDC, le député Clément Kankou, cité par le New York Times comme complice dans l'assassinat de deux experts onusiens dans le Kasaï, est visé par la justice. Le procureur général de la République s'est saisi des enregistrements sonores l'impliquant et demande maintenant la levée de son immunité parlementaire pour pouvoir l'inculper. Mais les Nations Unies trouvent que l'enquête congolaise semble, je cite, avoir été menée avec pas mal de rapidité. Paul Nsapou de la FIDH trouve suspecte la démarche de Kinshasa.
A anticipé en balançant de façon subtile dans le réseau cet enregistrement audio qui semble incriminer un de ses membres, son ancien ministre, M. Clément Kankou. Et quand vous y voyez de près, vous analysez cet élément qui existait déjà du vivant du chef Kamuina Nsapu, assassiné au mois d'août l'année passée et qui avait fait l'objet de beaucoup de réunions et même d'enquêtes au niveau du gouvernement et ses services. En relançant cet élément, on a vite compris la panique qu'il y avait dans ceux-là qui ont organisé le massacre des tueries en masse, presque un génocide des populations civiles, dans ce qu'ils appellent le Kasaï, zone opérationnelle militaire actuellement. Mais pourquoi la justice militaire congolaise et même la justice tout court et le régime de Kinshasa ont-ils attendu?
Paul Nsapou, secrétaire général de la FIDH en charge de l'Afrique à Paris. Près de 400 000 enfants congolais risquent d'être atteints par une malnutrition sévère dans la région du Kasaï, dans le centre de la RDC, en raison de violences en cours, a prévenu aujourd'hui l'UNICEF. La crise au Kasaï a gravement empiété sur les programmes de santé au cours des derniers mois, mettant à risque de malnutrition sévère aiguë presque 400 000 enfants, assure un communiqué de l'agence onusienne. Et en République du Congo voisine, pénurie constante d'eau potable dans les quartiers de Brazzaville, la capitale. Pour y faire face, les autorités ont annoncé une réforme au sein de la Société nationale de distribution d'eau, la SNDE, en déficit chronique. C'est le dossier de ce journal. À Brazzaville, retrouvons Ngoula Nguessou.
L'eau potable est devenue une denrée rare dans les quartiers de Brazzaville. Il faut attendre tard dans la nuit pour voir couler le liquide vital. Dans les quartiers périphériques comme un filou, les populations vont s'abreuver dans les marigots et les sources.
On parcourt des grandes distances telles qu'à Mambou là-bas. À Mambou, il y a un peu des sources naturelles pour aller puiser de l'eau, pour aller laver des habits. Bon, c'est pas potable, c'est pas traité. Ça coule seulement à l'air libre. Ça fait beaucoup de difficultés. Vu le nombre que nous sommes dans le quartier, c'est un peu difficile.
Bon, les questions d'eau dans le quartier, c'est un colonel qui nous a soulagés quand même. Il nous a mis un forage que la population de cette zone se ravitaille pour l'eau.
L'eau, c'est encore un casse-tête. Le jour où vous savez qu'il y a de l'eau, c'est quand ça coule hasardeusement dans la rue. C'est plutôt les fuites d'eau que nous déplorons.
À Batignolles, non loin de l'aéroport international de Mayamaya, où il y a un imposant château d'eau, les forages sont la solution. Mais les consommateurs doivent débourser de l'argent.
On va dans les forages, il y a beaucoup de forages ici. Ah, quoi faire si on n'a pas l'argent? Comme l'eau, c'est l'autre, là, c'est la vie. On est obligé de payer.
Pour Mermos Babunga de l'Observatoire congolais des droits du consommateur, la qualité de l'eau servie par la Société nationale, la SNDE, laisse à désirer.
On ne peut pas concevoir qu'une eau qui puisse traîner des débris et des tétards ne puisse pas avoir des problèmes de potabilité.
Sur la fréquence, généralement, parfois, tout le bimestre, ils ne reçoivent l'eau que pendant 2, 3, 4 jours, vers la période où la SNDE s'organise à venir distribuer les quittances. On dit aux consommateurs de ne pas payer, parce qu'on ne paye que la prestation qui a été fournie et qu'on a consommée.
L'État investit pourtant énormément dans la production et la distribution d'eau potable. Deux usines fonctionnent correctement à Brazzaville. Des efforts encore très insuffisants, reconnaît le Premier ministre Clément Mwamba, qui appelle rapidement rapidement aux réformes.
Il y a toujours un déficit de l'offre, c'est-à-dire la quantité d'eau qui est offerte est insuffisante par rapport à la demande. Donc ça, c'est un problème. Ce mode de gouvernance doit être changé dans les meilleurs délais. C'est terminer le discours de la plainte. Il s'agit d'aller aux mesures.
Les organisations de la société civile, elles, attendent le gouvernement au tournant. Trésor Nzilakende, acteur de la bonne gouvernance.
Il faut parfois être optimiste. Il est de la responsabilité du Premier ministre d'engager des vraies réformes et il fait une annonce. Alors on l'attend sur le terrain. On voudrait bien voir ces réformes. Il ne faut pas que ça soit un effet médiatique pour distraire les gens, mais le moment viendra où on fera l'évaluation. Mais la société civile souhaite vraiment que le Premier ministre aille jusqu'au bout de la logique.
Dans les villages, un programme Eau pour tous qui a coûté 194 milliards à l'État doit encore montrer son impact. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VO Afrique.
Une vitesse excessive, c'est la cause principale de l'accident de train qui a fait 79 morts et 600 blessés en octobre au Cameroun, selon les conclusions de l'enquête des autorités camerounaises qui soulignent la responsabilité de la société ferroviaire Camrail, filiale du groupe français Bolloré. Le déraillement du train s'était produit le 21 octobre à l'approche de la gare de Seka, dans le centre du pays, entre Yaoundé et Douala. Le président camerounais Paul Biya a prescrit via un communiqué des sanctions appropriées à l'encontre des responsables ainsi que l'audit de la convention de concession signée en 1999 entre l'État du Cameroun et la société Camrail, dont l'État est actionnaire à 13%.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les douanes nigérianes ont intercepté dans le port de Lagos une importante cargaison d'armes en provenance de Turquie, 5 mois après une découverte similaire, a annoncé leur porte-parole aujourd'hui. Et selon lui, la cargaison arrivait de Turquie et avait été recouverte de plâtre pour échapper à la vigilance des douaniers. Un suspect a été arrêté et une enquête sur les circonstances de cet envoi illégal a été ouverte. Un Africain pour la première fois à la tête de l'Organisation mondiale de la santé, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, a été élu hier nouveau directeur général de l'OMS au siège de l'institution à Genève en Suisse. Il a emporté au troisième tour devant le Britannique David Nabarro. Les précisions avec Jacques Aristide.
Pluie d'éloges pour le nouveau patron de cette agence, l'une des plus puissantes des Nations Unies. C'est un jour historique pour l'Éthiopie et pour l'Afrique. Ce sont les mots de Nega Chakibret, ambassadeur éthiopien auprès de l'ONU à Genève, à l'issue du vote. Le docteur Tedros prendra le 1er juillet la succession de la chinoise Margaret Chan, qui a dirigé l'OMS pendant 10 ans. L'ex-ministre éthiopien de la Santé et chercheur renommé sur le paludisme, âgé de 52 ans, prendre à la tête d'une agence qui a été notamment critiquée pour son manque de discernement sur la gravité de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Dans son intervention pour présenter son programme, le docteur Tedros a raconté avoir perdu, alors qu'il était enfant, un frère qui n'avait pas reçu les médicaments nécessaires. Il avait alors indiqué refuser d'accepter que les gens meurent parce qu'ils sont pauvres. Il a promis de travailler sans relâche pour garantir la couverture sanitaire universelle et veiller à ce qu'il y ait des ripostes solides dans les situations d'urgence. Il compte également renforcer la santé et l'autonomie des pays et mettre la transparence au cœur de l'OMS.
Le groupe État islamique a revendiqué son premier attentat suicide en Somalie, une attaque dont la police a indiqué aujourd'hui qu'elle avait fait 5 morts dans la ville côtière de Bosaso, dans le nord du pays. L'auteur de l'attentat a actionné sa veste explosive mardi soir alors qu'il se trouvait à un checkpoint de Bosaso, cité portuaire du golfe d'Aden et plus grande ville du Puntland. Le président américain Donald Trump a été cordialement accueilli aujourd'hui au Vatican par le pape François. Le président américain était accompagné de son épouse Melania, de sa fille Ivanka et d'une importante délégation. Le tête-à-tête entre le chef de l'exécutif américain et le souverain pontife a duré une demi-heure dans la bibliothèque des appartements pontificaux. Et puis, 3 hommes ont été arrêtés dans le sud de Manchester en lien avec l'enquête sur l'attentat de lundi dans une salle de concert de la ville, a annoncé la police. Un premier homme avait déjà été arrêté mardi dans le sud de la ville à la suite de l'attentat qui a fait 22 morts et 59 blessés et a été revendiqué par le groupe État islamique. Une 20aine de blessés touchés dans l'attentat par ailleurs. À Manchester sont toujours dans un état critique, a annoncé aujourd'hui sur Sky News un responsable des services de santé. Jean-Roger Billon, le prochain journal, c'est dans 50 minutes avec Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.